Donc, comme promis, on va terminer sur un tout petit point que je n'avais pas évoqué l'autre fois et qui me paraît important parce qu'il fait articulation avec ce qu'on va aborder pleinement aujourd'hui. Je vais en terminer sur un petit point, disais-je, avec Augustin. En terminer avec, c'est une expression, hein. Et ensuite, donc, nous allons nous attaquer à un gros morceau que, pour ceux qui ont fait des ateliers précédents, on a toujours abordé, enfin, certaines fois, mais là, on va essayer de le prendre de façon beaucoup plus approfondie. Donc, Thomas Hobbes, parce que sur cette question de l'être ensemble, de la construction du lien, de la communauté, de la cité, il est déterminant. Ça tombe bien en plus aujourd'hui que c'est un jour d'élection. Parce que, quelles que soient nos opinions, nos votes, nos pratiques, blanches, noires, quel que soit cela, l'institution de l'élection, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est Hobbes qui en est un des premiers penseurs, un des premiers précurseurs. Donc, vous voyez que l'enjeu est quand même important. Pour le dire autrement, concevoir un lien collectif à partir de l'élection, c'est-à-dire au fond à partir du contrat. Concevoir un lien collectif de la nature du contrat, on va voir que c'est ce que Hobbes est le premier véritablement à penser, à déployer tout au long de son œuvre. Donc vous voyez, c'est une coïncidence heureuse que d'aborder Hobbes un jour où est mis en pratique précisément la question du contrat. Comme lien de la cité, comme lien politique. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple et que ce n'est pas sans poser maintes et maintes questions, maintes et maintes problèmes, notamment du point de vue de la communauté. Mais bon, avant d'aborder Hobbes, donc terminons-en avec, rapidement, 5 minutes, avec Augustin d'Hippone. Il s'agit de ce petit texte d'une page qui est le commentaire de l'Épître aux Galates. Donc vous vous souvenez en fait qu'Augustin fonde une philosophie de la cité basée sur une dualité, la cité terrestre, d'ici-bas, donc la communauté humaine sur Terre, et la cité de Dieu, Civitas Dei, cité de Dieu. C'est le titre de son œuvre principale, en tout cas la plus connue, dont on avait exploré quelques extraits. Les deux cités ne se rejoignent pas parce que la cité divine, l'homme ne peut sur Terre en aucune façon la rejoindre, même si cette cité divine projette sa lumière sur la cité terrestre. Et pourquoi il y a cette césure, cette séparation totale entre les deux cités? Et c'est ça qui nous intéressait, c'est que Augustin est le penseur chrétien qui va le plus loin dans l'idée qu'à cause du péché originel, en fond, le problème de l'être ensemble sur terre des hommes, c'est que au centre de cet être ensemble se situe la mort et la menace de la mort. Tout ça étant causé par le péché originel. Et donc que tout le problème de la cité humaine, c'est de faire face à la mort. Alors souvenez-vous, il prend des grands exemples dans l'histoire, des exemples archétypaux que sont aussi bien Isaac, Ismaël, Agar et Sarah, au niveau des mères, l'exemple de Caïn et Abel, l'exemple de Romulus et Rémus, qui lui servent à prouver sa thèse, qui est que à chaque fois, au fondement de la cité, il y a la mort. Un meurtre, par exemple, ou une menace de mort, ou la rivalité, la jalousie. Je pense notamment à la rivalité qui menace de mort l'une pour l'autre, d'Agar, la servante, et de Sarah, la femme légitime d'Abraham. Et donc, voilà, poser un paysage qui fait rupture, un paysage mental, un paysage philosophique, qui va être déterminant pour la pensée de l'être ensemble dans la modernité. Et qui fait rupture complète avec la Grèce antique. Avec la Grèce antique, alors cette année on ne l'a pas réellement abordé, c'était plutôt l'objet de l'an dernier, mais peu importe, je résume d'un mot le fait que aussi bien Platon, par exemple dans la République, que Aristote, en particulier, pense la question de la cité, de la communauté politique et de la communauté humaine tout court, je dirais de façon positive, au sens où, aussi bien pour Platon qu'Aristote, il ne fait pas de doute que l'homme est, entre guillemets, naturellement, ou plutôt d'un point de vue grec, ontologiquement. Ontologiquement, ça veut dire du point de vue de la nature de l'être profond. Je rappelle que le mot ontologie vient de deux mots grecs, ontos, qui est le participe présent du verbe être. Et logos, qu'on retrouve partout, qui est le discours, la parole, la science. Donc c'est la science de l'être, l'ontologie. C'est toute la réflexion philosophique grecque qui consiste à s'intéresser, à réfléchir sur l'être et sur les étants. C'est-à-dire, les étants, c'est tout ce qui existe en ce monde et qui participe de l'idée d'être. Donc, d'un point de vue ontologique, pour les Grecs, que ce soit Platon ou Aristote, l'homme est un animal politique. L'homme est un animal politique, ou pour le dire autrement, un être social. Autrement dit, l'homme est fait pour vivre en communauté, vivre en société. Donc le ressort, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein, mais le ressort premier de la condition humaine est un ressort qui pousse naturellement à ce qu'il y ait des sociétés, des communautés humaines. Avec Augustin, on a pu découvrir qu'il y a incontestablement une rupture déterminante par rapport à cela. Une rupture qui va, encore une fois, commander toute la vision européenne jusqu'à nos jours. Le dernier petit commentaire que je veux faire, c'est partir d'un extrait de ce texte qui est issu donc du commentaire de l'Épître aux Galates d'Augustin. Je ne veux commenter que deux phrases, disons. Donc la première, rien effectivement ne dispose tant à la miséricorde que la pensée de ses propres dangers. Et la seconde, combien veulent disputer sitôt qu'ils sont éveillés et cherchent à se rendormir quand ils ne sauraient plus disputer. L'idée du danger commun doit donc maintenir dans le cœur la paix et la charité. Ces deux phrases sont articulées, elles expriment la même idée, hein, évidemment. C'est au fond ce qu'invente d'une certaine manière Augustin, c'est l'espèce de dialectique, c'est-à-dire qu'en gros, le problème des hommes pour vivre ensemble, c'est que la mort et le meurtre et la menace de s'entretuer est au centre. Ça, c'est une loi négative, c'est-à-dire qui, d'une certaine manière, empêche le vivre ensemble. Mais renversement dialectique, en quelque sorte, d'Augustin, on va faire de cet empêchement un ressort positif. C'est-à-dire que plus on a conscience du danger qui nous menace, plus on est enclin à chercher la paix et la sécurité. Plus on est enclin à établir une coexistence pacifique avec les autres. Donc, le danger, c'est un mouvement contradictoire, hein, le danger de mort qui pousse à la solitude, à l'isolement de chaque être humain, à la séparation d'avec des autres, ce danger permanent que l'autre constitue comme menace pour sa propre survie, peut jouer comme lien, comme lion. Donc il est évident que ce dispositif est déterminant pour la pensée occidentale et qu'on va le retrouver, c'est pour ça que je tenais à compléter ce qu'on avait vu d'Augustin par ceci, c'est ce qui va, d'une certaine manière, directement se retrouver dans la pensée de Thomas Hobbes. Donc il faut retenir cela. C'est très profond, si on y réfléchit, cette pensée. Venons-en donc directement à Thomas Hobbes maintenant. Alors, deux livres sont très importants. C'est ces deux livres qui sont les bases de sa pensée de la question du lien, de la question de l'être ensemble, la question de la cité. Donc, Le citoyen ou les fondements de la politique, c'est un livre qu'il a écrit en latin et dont le titre originel est De Cive, Cive, C-I-V-E, qui veut dire « au sujet du citoyen ». Et l'autre livre, qui est son livre le plus fameux, le plus célèbre, qui a ce titre énigmatique, Léviathan, ou Le Léviathan selon les éditions. Léviathan. Il y a plusieurs éditions, hein, d'ailleurs. Ce livre-là est écrit en langue vernaculaire, en langue moderne, c'est-à-dire en anglais. Le Léviathan, tout de suite, vous savez que c'est une figure biblique. La Bible telle que le protestantisme l'a abordée, donc aussi bien ce que les chrétiens protestants vont appeler, les chrétiens réformés vont appeler l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est quelque chose qui fait partie de ces fondements de pensée. Donc le Léviathan, c'est une figure typique de la Bible, c'est un monstre marin, une espèce de baleine, qui est néanmoins un bon monstre. Par opposition à un autre monstre, qui fera l'objet aussi d'un livre de Hobbes, qui est Behemoth, B-E-H-E-M-O-T, qui est l'envers du Léviathan, qui est le monstre marin redoutable, dangereux. On peut considérer, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un commentaire littéraire autorisé, que Moby Dick de Melville, c'est directement l'histoire de Hobbes. C'est directement inspiré de Hobbes et de son Léviathan, d'une certaine manière. Donc c'est le pendant littéraire, alors bien ultérieur. Mais vous savez qu'en matière de pensée, de littérature, il n'y a pas de temporalité qui compte, d'une certaine manière. Les choses sont atemporelles. L'Iliade et l'Odyssée nous sont toujours aussi contemporains que pour les gens du 15e, du 17e siècle, etc., quoi. Il y a une atemporalité des grandes œuvres de l'esprit. Ne vous méprenez pas. Quand je dis atemporalité des grandes œuvres de l'esprit, je ne veux pas dire qu'elles restent figées de façon immuable. Au contraire, c'est-à-dire qu'elles sont réinventées par chaque période, par chaque même individu de chaque période. Et c'est ce qui fait une grande œuvre, cette capacité à être constamment réinventé et à être constamment actuel. Actuel pour des contemporains. Voilà, donc ce n'est pas parce que Melville, c'est à l'aube du XXe siècle et que le Léviathan de Hobbes, c'est le XVIIe siècle, qu'il n'y ait pas un écho direct de l'un à l'autre. De même qu'il y a un écho, donc disais-je avant, entre Augustin, qui est le 5-6e siècle, et Hobbes, qui est le XVIIe siècle. On traverse joyeusement les siècles si on situe les choses du point de vue, non pas de l'histoire chronologique, événementielle, mais du point de vue de la pensée. D'ailleurs, d'une certaine manière, même un historien, parce que les historiens sont réticents à admettre cela, sauf les plus grands et les plus intelligents, et pensez aux leçons de Patrick Boucheron au banquet d'été. Au fond, c'est ce qu'il démontre. En jonglant joyeusement d'un siècle à l'autre, il met en évidence que, certes, il y a temporalité, mais qu'en réalité, à un niveau en dessous, les choses, par des réseaux de correspondance, se répondent et peuvent être mises en lien. Voilà donc pour ces deux livres majeurs, et j'ajoutais donc Behemoth, quelques indications sur quand même le personnage de Hobbes, donc Thomas, hein, Hobbes, citoyen anglais, qui est né en 1588 et qui est mort en 1679. Une parenthèse par rapport à ça, parce que ça surprend toujours. En fait, c'est pas parce que l'espérance de vie augmente de façon importante qu'on ne peut pas imaginer que dans l'Antiquité ou que dans le siècle passé, les gens ne pouvaient pas vivre vieux. Les gens pouvaient vivre aussi vieux qu'aujourd'hui, presque. C'est simplement le problème des statistiques et des moyennes dont on nous rabat les oreilles de façon non contrôlée scientifiquement. Une moyenne, ça va de 0 à 100 en termes d'âge, par exemple. Donc, le fait que l'espérance de vie augmente, c'est dû principalement au fait qu'il y ait de moins en moins de mortalité infantile. Et c'est ça qui a progressé de l'Antiquité, du Moyen-Âge à nos jours. C'est que la mortalité infantile faisait que la probabilité de vivre au-delà de, disons, 10 ans, était très faible, alors qu'aujourd'hui, elle est quasi totale. Elle est quasi à 100%. Donc, on interprète toujours mal les choses par cette espèce de magie fallacieuse des chiffres. Au XVIIe siècle, vu qu'Hobbes c'est essentiellement le XVIIe, on pouvait vivre très vieux. Ça dépend des milieux sociaux. Il est clair que des milieux qui vivaient dans une extrême pauvreté, de villageois sans véritablement propriété et dans des maisons extrêmement précaires, étaient condamnés à vivre là. Mais ce n'est pas tant ça le problème. C'est plus le problème des femmes qui mouraient en couche. Ça, c'est l'autre grand facteur. Les femmes qui mouraient en couche, c'était jusqu'au 19e inclus. C'était extrêmement fréquent. Donc ça aussi, ça contribuait à diminuer considérablement la moyenne, l'espérance de vie moyenne. Donc Hobbes, essentiellement, c'est le XVIIe siècle anglais. Donc il est né d'une famille protestante. Donc un repère quand même historique peut-être pour vous situer les choses. Il naît la même année que la défaite de l'invincible Armada. Donc la défaite de l'invincible Armada, souvenez-vous du contexte, l'Espagne est une des puissances les plus importantes de l'Europe à l'époque, et même du monde, et notamment l'Espagne de Philippe II. Donc c'est la fin de l'âge d'or espagnol, ce qu'on a pu appeler l'âge d'or. Et donc l'Espagne est tellement rayonnante qu'elle va jusqu'aux Flandres, ce qu'on appelle à l'époque les Flandres, c'est l'équivalent aujourd'hui des Pays-Bas. Il faut savoir qu'il y avait aussi une alliance avec la Bourgogne. Donc, vous voyez, la Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, était espagnole. Voilà, c'est dire la puissance de l'Espagne qui est supérieure à celle de l'Angleterre, qui est pourtant une puissance maritime dès l'époque. Sauf que, c'est pour ça que cette année de naissance de Hobbes, symboliquement, elle est importante, que la défaite de l'invincible Armada est un point de bascule. Est un point de bascule parce que c'est quoi l'invincible Armada? C'était la flotte espagnol de Philippe II, qui pensait, pour renforcer ses bases dans les Flandres, conquérir ni plus ni moins l'Angleterre par les voies maritimes. Et défaite, qui met un coup d'arrêt définitif à la puissance espagnole. Et ça va être la montée en puissance de la Grande-Bretagne. Voilà, donc je précise ça parce que c'est dire aussi, c'est déjà suggéré, que Hobbes naît précisément au début d'une période où le monde, et surtout le monde européen évidemment, et surtout l'Angleterre, vont être bousculés. Une période où va s'inventer peu à peu un nouveau monde, mais où tout va être chahuté. Tout va être violemment chahuté. Et cette conscience de la fragilité de l'édifice d'une société, je dirais que Hobbes, il l'a eu dès sa naissance. J'allais dire dès le biberon, mais c'est un peu anachronique. Donc, ensuite, Hobbes, étant d'une famille, on va dire aisée, fait des études, les études classiques de l'époque, les humanités. Donc, il étudie à Oxford, qui est une des grandes universités déjà de l'époque. Donc, il étudie tout ce que l'enseignement des humanités offre, et notamment tout ce qui est le grec et le latin, non seulement la langue grecque et latine ancienne, mais aussi les textes et toute la culture grecque et latine. Par son protestantisme, évidemment que l'enseignement de la Bible et de toute la philosophie chrétienne fait partie de sa formation intellectuelle. C'est important de le préciser. Il deviendra très jeune, peu importe la date, précepteur du fils de Lord Cavendish. Alors, Lord Cavendish, c'est toute une famille extrêmement importante dans l'histoire de l'Angleterre de l'époque, disons du XVIe et XVIIe siècle, et qui vont jouer un rôle essentiel pour Hobbes, une famille qui va le protéger en permanence. C'est-à-dire que ça va être sa famille de protecteurs. Cavendish, C-A-V-E-N-D-I-S-H. Rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de faire toute une biographie, ce n'est pas le but, c'est quelques repères pour vous situer comment sa pensée va se développer et dans quel contexte. Hobbes va être amené à faire de fréquents allers-retours entre l'Angleterre et Paris. Paris est quand même une ville de rayonnement intellectuel. Donc, quand il naît et jusqu'en 1610, c'est Henri IV qui est le roi de France, qui règne à Paris. Henri IV, dont je vous rappelle que c'était un roi protestant, qui, par opportunité politique, s'est converti au catholicisme. Ce qui a permis d'ailleurs de créer une période de paix, incontestablement. Pensez à l'édit de Nantes, pensez à ces épisodes de l'histoire. Alors, Hobbes débarque à Paris pour la première fois à un moment de rupture, l'assassinat d'Henri IV. Donc vous voyez que là encore, son existence est liée à des moments symboliques, mais aussi factuels, réels, concrets, de rupture et d'ouverture de périodes d'instabilité. Et donc il fera des fréquents voyages à Paris entre 1610 et 1636 à plusieurs reprises. C'est important aussi parce que ça va l'amener à fréquenter des intellectuels importants qui résident à Paris, et je pense en particulier au père, au sens de religieux, Mersenne, M-E-R-S-E-2-N-E. Le père Mersenne, c'est une figure très connue, c'est un des plus grands savants européens de l'époque. On peut dire qu'il connaît peut-être tout. Et c'est quelqu'un qui est en commerce régulier, et on le connaît à travers les lettres, notamment avec des gens comme Descartes, Pascal également, et ainsi de suite. Donc ce commerce avec le père Mersenne à Paris va contribuer là aussi à la formation de Hobbes. Donc Hobbes va connaître la pensée de gens comme Descartes, comme Pascal, aussi citer un autre nom qui compte comme Machiavel en Italie. Il faut mettre en relation toutes ces figures. Paris, dans la dernière période où il y va, sera un lieu de refuge pour lui parce que en Angleterre va s'ouvrir une longue période de guerre civile. Et ça, c'est déterminant comme expérience dans la pensée de Hobbes. La guerre civile anglaise, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est long, compliqué, c'est pas l'objet. Les historiens distinguent trois périodes. Trois périodes, ce qui fait dire qu'il y a eu trois guerres civiles. En réalité, c'est une continuité. Ça va de 1642 à 1651, véritablement. Donc, ces 10 années sont des années terribles, où on s'entretue joyeusement à tour de bras. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? Le premier aspect, qui s'amorce dès 1621, là, quand je dis les dates extrêmes de la guerre civile, c'est le moment de plus grande intensité, mais la période bousculée est beaucoup plus longue. Donc, dès 1621, s'amorce une période de grave tension entre ce qu'on appelle les communes et le roi. Le roi qui est Jacques Ier, qui ensuite sera, à sa mort, remplacé par Charles Ier. Alors, les communes, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un conflit, pour le dire vite, entre la royauté, la monarchie, selon le modèle classique issu du Moyen-Âge et qu'on retrouve aussi en France, par exemple, en Espagne, un peu partout dans l'Europe. Alors, je n'ai pas le temps de développer, pourtant il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'est l'être ensemble, le commun fondé sur le principe de la monarchie de droit divin. Laissons tomber cela. Simplement, bornons-nous à dire que ce qui s'amorce dans cette tension entre les communes et le roi, et qui va traverser la guerre civile, et de laquelle va naître un autre ordre politique, c'est la tension donc entre ce principe traditionnel d'une société fondée sur une monarchie de droit divin et le principe d'une société politique organisée selon la constitutionnalité. Alors, je reviendrai ensuite sur ce qu'est la constitutionnalité, parce que c'est d'une certaine manière Hobbes qui l'invente. Ça donnera en Angleterre la monarchie constitutionnelle, qu'est le régime d'aujourd'hui. Donc la guerre civile anglaise s'organise selon cette première ligne conflictuelle, c'est-à-dire deux modèles d'être ensemble. Ensuite, une deuxième ligne conflictuelle, alors qui se recoupe, qui s'entrecroise, hein, c'est la guerre du roi contre les Écossais. Ces deux lignes de tension, donc d'un côté l'opposition entre monarchie et une vision constitutionnelle de l'édifice social, et de l'autre côté l'Écosse, s'entremêlent. Et ça se traduit de la façon suivante, factuellement. C'est-à-dire qu'en 1640, Charles Ier fait la guerre contre les Écossais, parce que les Écossais se sont révoltés contre la monarchie anglaise. Et c'est une guerre qui est violente, qui est dure. Ce n'est pas la Catalogne d'aujourd'hui qui va proclamer unilatéralement son indépendance. Je ne pense pas qu'il y aura des milliers de morts suite à ça, heureusement quand même. Et donc le roi Charles Ier demande au Parlement, demande des fonds pour faire la guerre. Et donc c'est là que les deux lignes conflictuelles se croisent, le Parlement refuse. Et donc il y a toute une série d'épisodes, le roi va dissoudre ou suspendre le Parlement. Donc, on voit comment se noue tous les éléments de la guerre civile. Le camp royaliste sera vaincu à l'issue de la première séquence de la guerre civile en 1646, véritablement, ce qui se traduit par le fait que Charles est exécuté. Et donc, je passe en 1649, après l'exécution à Londres de Charles Ier, est proclamé l'abolition de la monarchie et d'une institution qui est associée à la société ancienne, traditionnelle, la Chambre des Lords. Et donc, dans un premier temps, il y a l'établissement d'une république. Donc, Hobbes, dans cette période-là, il va être amené à se réfugier à Paris pour un certain nombre d'années. Ensuite, il y a une troisième ligne de clivage. C'est très compliqué parce que, par définition, la guerre civile, c'est le bordel, si vous me passez l'expression. C'est la guerre de tous contre tous, la guerre civile. Donc, vous pouvez multiplier les lignes conflictuelles. Donc, il y a une troisième ligne de conflit qui va jouer un rôle très important, à laquelle Hobbes accordera le plus d'importance, au fond, c'est les conflits, les rivalités entre ce qu'il appelle, ce qu'on peut appeler, d'ailleurs au sens strict du terme, les sectes religieuses. Comme vous le savez, une caractéristique du protestantisme des réformés, c'est une caractéristique, alors il faut prendre le mot au sens technique, le mot aujourd'hui en français est un mot ambigu parce qu'on y associe tout de suite un sens très péjoratif, mais autant l'Église catholique, c'est un bloc, l'Église, l'institution de l'Église. Autant le protestantisme s'organise, donc j'utilise le mot, en secte. C'est une logique de secte. C'est-à-dire différents groupements avec des variantes théologiques qui peuvent être extrêmement importantes. Alors, secte, entendez-le, pas au sens péjoratif auquel on l'associe aujourd'hui quasi exclusivement. C'est-à-dire que ces différents foyers, on pourrait appeler ça des foyers de vie spirituelle différents. Et il y en a un nombre très important. C'est une constellation, quoi, en quelque sorte. Et en particulier, une secte qui joue un rôle très important en Angleterre dans la guerre civile, c'est les presbytériens, l'Église presbytérienne. Alors, il y a les Irlandais aussi qui sont dans le coup. Hein. Les Irlandais sont aussi dans la guerre civile. Mais juste, je reviens sur le fait religieux parce que c'est pour Hobbes le problème majeur. Il y a les presbytériens, mais en Angleterre, le protestantisme s'organise en toute une série de mouvements sectaires différents. Quoi. Parce qu'on a la vision aujourd'hui d'une Angleterre protestante homogène autour de l'Église anglicane. L'Église anglicane, d'ailleurs, qui est protestantisme hybride, au sens où elle est très proche du modèle de l'Église romaine. Mais à côté de l'Église anglicane, il y a les Checkers, les Quakers, pour donner quelques exemples, qui sont des mouvements extrêmement importants, qui vont jouer un rôle d'ailleurs dans une évolution d'une conception de la société utopique. Les Checkers et les Quakers sont des mouvances protestantes qui vont être des terreaux des utopies anglaises en fait. Des utopies au sens ultérieur du 19e siècle, mais qui s'amorcent dès le 17e à travers des figures comme Thomas More, Thomas Morus, etc. En France, les utopies, ce sera au 19e siècle, des gens comme Fourier, Considérant, Saint-Simon, Proudhon, qui imaginent des modèles de société idéale. Mais ces mouvements utopiques ont eu une grande influence, non seulement dans la construction de l'Europe contemporaine, mais surtout, je dirais, la construction des Amériques contemporaines. Parce que tous ces courants utopistes, qu'ils soient issus du protestantisme ou issus plutôt d'un catholicisme en France, vont donner lieu à des migrations, des mouvements migratoires extrêmement importants dans les Amériques. Parce que tous ces utopistes ont considéré que les Amériques du Sud et du Nord donc, étaient des terres vierges, des sociétés neuves, et que le terreau était beaucoup plus favorable pour construire des sociétés idéales. Jean-Louis Comolli, quand il faisait du cinéma de fiction, a fait un très beau film sur cela qui s'appelle La Cécilia. Et c'est l'histoire de la construction d'une communauté utopique, je crois que c'est au Brésil, en tout cas en Amérique du Sud. Et il y a des villes d'Amérique d'aujourd'hui qui sont issues de tentatives communautaires des utopistes européens. Et les Checkers et Quakers, autour d'une figure notamment ultérieure à ce qu'on évoque là, qui est Robert Owen, O-W-E-N, vont être rayonnants à travers le monde. Donc c'est des courants sectaires au départ extrêmement importants. Que rajouter encore? Donc dans la guerre civile, oui, il y a une figure que je cite au passage parce qu'elle est connue, qui joue un rôle très important en Angleterre, qui est Cromwell. C-R-O-M-W-E-2-L, qu'on décrit comme ayant une main de fer, ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs d'avoir été vaincu. Dernier point peut-être à souligner, à la mort de Cromwell, Hobbes retournera vivre en Angleterre, mais il n'en a pas terminé avec les menaces, parce que précisément les presbytériens et toutes les sectes protestantes lui reprochent, ce qui est une accusation fausse, mais qui en dit long sur la réception de ses œuvres à l'époque, lui reprochent d'être athée, de professer un athéisme. Ce qui est paradoxal, parce que toute son œuvre, en particulier le Léviathan, est nourrie de ses lectures bibliques, est nourrie d'un fond de philosophie chrétienne, est nourrie d'Augustin, etc. Mais on lui reproche de professer un athéisme. Alors, ça se comprend en même temps, parce que, on va le voir, la société, la communauté humaine qu'il se propose de fonder est une communauté qui est auto-centrée, c'est-à-dire qui est fondée sur la volonté des hommes entre eux, et non plus fondée sur un principe extérieur, un principe divin par exemple. Or, comme je l'ai dit, tout ce qui est issu de la tradition, la monarchie, ne transige pas sur le fait que la société ne peut reposer que sur un principe divin. Donc voilà en quoi on l'accuse de professer un athéisme. Alors c'est très violent à l'époque, hein, y compris en Angleterre. Hein, on pense qu'en Angleterre, contrairement à l'Italie et à la France, c'est beaucoup plus cool du tout. Et en particulier, ces deux livres, ils sont très chauds, ils vont être brûlés. C'est-à-dire qu'il y a un auto-da-fé qui est organisé à Oxford, à l'université, à Oxford, où on brûle tous les exemplaires de ces deux livres, Dekiwe et Léviathan. Et ça, en 1683. Heureusement pour lui, il ne l'a pas vu après sa mort, qui est, je le rappelle, donc en 1679. Alors, que ça soit un auto-da-fé posthume de ses œuvres, en dit long sur la postérité de la pensée de Hobbes. C'est-à-dire que, au-delà de sa mort, ses œuvres, sa pensée, continuent à travailler en profondeur le corps social et le corps politique. Il a une postérité extrêmement importante du point de vue des penseurs de la philosophie politique et morale et du point de vue d'une influence sur la façon de penser une société jusqu'à aujourd'hui, c'est clair. Je citerai juste une seule figure qui n'est pas dans la filiation, parce qu'en même temps, il y a une rupture et une réorientation à partir de ruptures importantes, c'est Rousseau. Rousseau, et notamment le Rousseau du contrat social, on ne peut pas ne pas le mettre en rapport avec Hobbes et la pensée de Hobbes. Hobbes va penser que la guerre civile ou le bordel dans une société est dû à l'influence des pensées des églises, l'influence des pensées morales et religieuses, qui tordent la réalité humaine dans un sens qui pose problème, qui est faux, qui crée, comme on dirait en termes modernes, du dysfonctionnement. Ça ne peut pas marcher correctement. Et du coup, comme ça ne peut pas marcher correctement, ben, ça favorise les désordres les plus totaux. Ce qui est très contemporain, on y revient sans arrêt. Pour rester à Hobbes, il dit qu'il faut baser sa pensée de l'homme et de la société sur autre chose que les a priori moraux et religieux. Sur quoi ? Je m'arrête quelques minutes là-dessus parce que c'est source de beaucoup de malentendus qui persistent encore aujourd'hui. Non pas sur l'observation de l'homme tel qu'il est, c'est pas tout à fait ça. Autrement dit, l'alternative que propose un penseur comme Hobbes, c'est non pas de fonder sur une sociologie ou une ethnologie. À l'époque, les sciences humaines n'existent pas encore. Les sciences humaines qui prétendent connaître scientifiquement l'homme et la société dans leur réalité sans voile, c'est une pensée du 19e qui n'est pas présente au 17e. Donc on ne peut pas dire que Hobbes dit « on va étudier, observer l'homme et la société à l'état brut » pour ensuite en déduire les principes d'organisation de l'être ensemble. C'est pas comme ça. Et ça, c'est source de malentendus parce que on a toujours considéré que Hobbes, mais aussi Rousseau, par exemple, partaient d'un constat qui se voulait réaliste et qui en fait était une invention. Chez Rousseau, ce qu'on a appelé le mythe du bon sauvage. Donc tout le monde dit, ah, Rousseau était très naïf parce qu'en réalité on sait que c'était pas comme ça. Sauf que là aussi on se trompe. Rousseau n'a jamais prétendu faire une préhistoire de l'humanité ou faire une anthropologie, une ethnologie, une sociologie. Donc la société première chez Rousseau, l'état humain premier, il est clair que Rousseau sait que ce n'est pas une réalité historique. Pour Hobbes, il s'agit de la même chose. Hobbes part d'une description de ce qu'est l'état des hommes avant que la société organisée se soit instaurée. Mais ce n'est pas une réalité historique ou ethnologique ou anthropologique. C'est une démarche purement méthodologique. Et c'est ça la source du malentendu, c'est que on a du mal à comprendre ça souvent. C'est une démarche de méthode. Hobbes dit, imaginons ce qu'est l'état des hommes, ce que serait l'état des hommes avant la société telle qu'elle existe. Il ne prétend pas trouver la réalité historique de ce que ça a été. C'est simplement une base de méthode, une hypothèse méthodologique. Et du coup, on ne peut pas taxer Hobbes d'erreur ou de naïveté ou d'ignorance de ce point de vue-là. Et j'ajouterais que ce que je dis là, ce n'est pas simplement une interprétation de la pensée de Hobbes, de la démarche de Hobbes, c'est simplement une restitution de ce que dit Hobbes. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Voilà, ma méthode, c'est d'imaginer l'état de l'humanité avant la société. Mais il ne dit pas, voilà, j'ai fait des études historiques, anthropologiques, et voilà comment était la société, comment était la condition humaine avant. Il ne le dit pas. Il dit, voilà, imaginons, méthodologiquement, on en a besoin pour savoir sur quoi après on va s'appuyer pour fonder un modèle de communauté humaine, de société humaine. De quoi on part? De quel présupposé on part méthodologiquement? Et à ce titre-là, Hobbes et Rousseau vont partir de présupposés totalement opposés. C'est en ce sens-là que Rousseau est un continuateur du Léviathan et de Hobbes, mais avec un déplacement, des déplacements très importants. Alors, cette hypothèse de départ, cette démarche méthodologique fait appel à la notion qui est commune à tous les penseurs, à Spinoza, etc., de l'époque, qui a été aussi très mal comprise, le droit de nature. Ou le droit naturel. C'est ce qu'il appelle le droit naturel. Donc vous voyez, on n'est pas sur une sociologie ou une ethnologie, une science. On est sur des principes méthodologiques qui se disent en termes du coup juridiques. Le droit naturel, ou le droit de nature. Par opposition avec une autre notion qu'il va élaborer par la suite, qui est les lois ou la loi, les lois naturelles. Les lois naturelles. Alors, le droit naturel, de quoi s'agit-il? Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une constitution, un ensemble de lois. Le droit naturel, c'est une façon de désigner méthodologiquement le point de départ que l'on pose, que Hobbes pose, que Spinoza pose, qu'à l'état de nature. Alors, l'état de nature, c'est l'état d'avant l'organisation d'une société, d'avant une organisation en société pensée par la raison, qu'à l'état de nature, chaque individu, chaque être humain, a une liberté, qui est la liberté d'affirmer sa puissance de vie, et qui est un droit au sens où, avant qu'une société, avant qu'une collectivité d'individus s'organise et décide volontairement de tel et tel mode de lien, avant cela, l'état de départ, c'est que ce qui constitue chaque être humain, c'est ça le droit naturel, c'est une liberté qui est la liberté d'affirmer sa vie et d'affirmer le désir de persévérer dans sa vie. En termes plus modernes, mais en réalité, beaucoup de traductions de Hobbes, et notamment de l'anglais, utilisent le mot, c'est que le droit naturel, c'est que l'homme est mu par le désir. On peut légitimement utiliser le mot de désir comme caractérisant le droit naturel. Le droit naturel, c'est qu'avant toute société, chaque être humain est mu par un désir. Et le désir, par définition, est illimité. Tant que l'homme n'est pas mort, et tant qu'il y a de la vie, le désir est toujours là. C'est très éminemment contemporain, parce que c'est ni plus ni moins ce que la psychanalyse développera bien après. Donc il y a une contemporanéité de cette pensée incontestable. Il y a un autre mot qu'on peut utiliser, qui est un mot qu'utilise Hobbes, enfin dans les traductions, et qui est le mot que va reprendre, qui va façonner, structurer toute la pensée d'un grand philosophe du 19e allemand, qui est Nietzsche, c'est le mot « puissance ». Chaque être humain est mu par une puissance de vie. On peut l'entendre comme synonyme de désir. Donc le droit de nature, le droit naturel, c'est cela. Et il va partir de là pour ensuite penser son édifice, penser le type de lien entre les hommes, le type de société, le type de communauté, entre guillemets, humaine. Alors, la deuxième notion, dans cette pensée-là, l'humain est vu d'ores et déjà comme individu. C'est une pensée nouvelle. Je dirais même que c'est ce qui fonde la modernité en Europe. Parce que jusqu'alors, et y compris l'Antiquité gréco-romaine et tout le Moyen-Âge chrétien, l'individu n'existe pas. L'homme ne se pense pas comme un individu, c'est un petit îlot séparé de chaque petit îlot et devant entretenir certains types de relations du coup volontaires ou alors contraintes, s'il y a une contrainte, avec les autres petits îlots. Alors là, je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse, aux ouvrages majeurs d'un grand philosophe et anthropologue français qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Louis Dumont, D-U-M-O-N-T, et dont toute l'œuvre est basée sur cela. Dumont explique que les sociétés humaines obéissent à deux grands modèles. Un modèle qui est le modèle traditionnel qu'il appelle le modèle holiste, H-O-L-I-S-T-E. Holiste, ça vient du grec holos, H-O-L-O-S, qui veut dire tout, que vous trouvez dans des mots comme hologramme, par exemple, une totalité. Ça veut dire que ce sont des sociétés où l'individu n'existe pas, où les hommes sont pensés comme un élément solidaire du tout, qui a une place dans un tout et dont l'existence n'est définie que par la place qu'il occupe dans le tout. Ce que dit Louis Dumont, c'est que ce sont des sociétés par définition hiérarchiques. Parce qu'une place dans un tout, ça définit une hiérarchie. Donc toutes les sociétés anciennes, grecques, romaines, médiévales, chrétiennes, en Europe, et la société rurale, jusqu'à, je dirais, presque aujourd'hui, pour peu qu'il reste encore de la vraie ruralité, étaient des sociétés holistes. D'autres sociétés holistes, c'est celles que les ethnologues ont étudiées et dont certaines existent encore, du moins à l'état de survivance aujourd'hui, c'est par exemple, et Louis Dumont étudie particulièrement cette société-là, la société indienne d'Inde, organisée selon le système des castes. C'est une société qui forme un tout basé sur le système hiérarchique des castes. Et l'individu n'existe pas, son existence est déterminée à l'avance par la place qu'il occupe, donc son appartenance à telle caste ou telle autre caste. Et la société n'est qu'un tout pris dans un tout plus vaste. C'est-à-dire que c'est une vision en poupée russe. Hein. Les touts, c'est des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et le grand tout, c'est le tout cosmique. Vous avez le tout cosmique qui est le tout qui enveloppe l'ensemble, et le tout de la société, et à l'intérieur de la société, le tout d'une caste ou le tout d'une tribu, ou le tout d'une communauté villageoise, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est le modèle holiste, qui est le modèle qui prévaut en Europe dans ce qui est traditionnel. La monarchie, il est évident que le système de la monarchie traditionnelle repose sur un principe holiste, dont la pierre angulaire, sur Terre c'est le roi, et dans le cosmos c'est Dieu. Par opposition à cela, l'Europe moderne, à partir de la Renaissance, 15e, 16e siècle, en Italie essentiellement, mais ça s'amorce dès la fin du 14e siècle, avec le développement des communes, des municipalités, ce qu'on appelait les révolutions municipales. Donc en Italie, ça s'invente dès la fin du XIVe siècle dans les villes, qui deviennent des États à elles toutes seules, affranchis d'une autorité traditionnelle. Je vous renvoie par exemple au beau livre de Patrick Boucheron, Conjurer la peur. Et ce livre, c'est un commentaire, une analyse des fresques de Lorenzetti, qui est un des grands peintres siennois, justement à la fin du XIVe siècle. Et la Sienne de l'époque, la ville de Sienne, invente un laboratoire qui invente ce qui va se développer. C'est une nouvelle vision de l'homme et de la société. Et Lorenzetti a peint deux fresques qui se font face dans une grande salle. C'est la fresque ou l'allégorie du bon gouvernement et du mauvais gouvernement. Et c'est des fresques qui sont saisissantes, vraiment saisissantes, et dont Patrick Boucheron, dans ce livre, fait une analyse extrêmement remarquable. Et on voit que ces fresques indiquent précisément la naissance de la modernité dès la fin du XIVe siècle à Sienne. On retrouve le même phénomène à Florence, à Venise, dans les villes, surtout italiennes. C'est ce qu'on appellera, encore une fois, les révolutions municipales. Et on voit que ces fresques expriment, traduisent la naissance d'une pensée nouvelle qui est que l'être ensemble, la communauté humaine, la cité humaine, n'obéit pas à un ordre prescrit par la religion, enfin, n'obéit pas à un ordre divin, obéit à une décision humaine. Et donc, quelle est cette décision humaine? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un bon gouvernement, c'est-à-dire une société de paix, ou qu'est-ce qu'il y a un mauvais gouvernement, c'est-à-dire une société de guerre? Les deux allégories, les deux fresques, décrivent cela. C'est-à-dire un bon gouvernement est représenté par une société, c'est une espèce de ville. C'est presque des bandes dessinées parce qu'il y a plein de scènes à l'intérieur. Et ça décrit une société d'abondance et de paix. Par contre, la fresque du mauvais gouvernement décrit une ville, une société de misère et de guerre. Donc, le point de départ, les prémices, donc, c'est Sienne, par exemple, fin du XIVe siècle. Mais ensuite, c'est le XVIe et le XVIIe qui vont véritablement inventer en Europe partout, même s'il y a des décalages temporels. Donc d'abord l'Italie de la Renaissance, les Flandres, et au XVIIe siècle, la France, ce qui est l'Allemagne, l'Angleterre, vont inventer une conception totalement inédite dans l'histoire de l'humanité, dont nous sommes les héritiers ô combien, par opposition au holisme, une vision individualiste, une culture individualiste. L'élément qui est l'individu, dans le holisme, qui n'est qu'un élément sans réalité propre, devient le centre, la base, le fondement. Encore une fois, souvent, je prends l'exemple, qui est très parlant, du fameux dessin de Léonard de Vinci, d'un homme, les membres écartés comme ça, dans un cercle, dont le nombril est le centre du cercle. Ça résume le programme de la modernité, dont nous vivons aujourd'hui encore, mais dont on vit peut-être les dernières heures. C'est bien ça tout le problème de notre époque. Cette invention d'une culture de l'individu, vous retrouvez ça dans les livres de Louis Dumont par exemple, va de pair avec ce qu'on a pu appeler aussi l'humanisme, l'invention de l'humanisme. Humanisme, c'est une vision du monde qui est basée sur l'idée de l'homme individu, de l'individu humain. Pour le dire encore d'autres termes, c'est le passage d'une société théocentrique, théocentrée, ou un principe extérieur qui tient le tout, qui est la pierre angulaire du tout, Dieu est la base, à un principe anthropocentrique, où, à l'image du dessin de Léonard de Vinci, c'est l'homme, l'individu humain, qui est à la fois le fondement et le centre. C'est un bouleversement considérable. Nous n'existerions pas dans notre âme et notre corps tels que nous existons aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce bouleversement. Il faut se rendre compte de ça. On ne serait pas ce qu'on est. Chacun, il faut le penser même pour son propre compte s'il n'y avait pas eu ce bouleversement. Alors, je vous renvoie quand même à certains des livres de Louis Dumont, qui était un penseur génial de cela, qui était donc encore une fois anthropologue et philosophe. Pour la société Holis, je pense en particulier au mot hiérarchicus, qui est une analyse à partir de la société holiste, à partir de l'exemple qu'il connaissait très bien de la société indienne par caste. Je termine avec les citations des livres quand même, j'y tiens, de Louis Dumont, parce que je trouve que c'est quelqu'un de très important. Donc pour le holisme, j'ai cité le livre principal. Pour l'individualisme, il y a deux livres. Le pendant d'Homo hiérarchicus, c'est donc chicus, C-U-S, comme hiérarchique, mais C-U-S à la fin. C'est Homo aequalis. Homo, H-O-M-O, aequalis, A-E-Q-U-A-L-I-S. Aequalis, ça veut dire l'homme égal. Alors que Homo hiérarchicus, l'homme hiérarchisé. C'est des livres qui sont parus, ceux-là, chez Gallimard. Hein. Et le sous-titre, c'est Genèse et épanouissement de l'individualisme, je crois que c'est ça. Et un autre livre sur l'individualisme de Louis Dumont que je citerai, c'est Essai sur l'individu. Celui-là, je crois qu'il est paru par contre au Seuil. Donc, le droit naturel tel que le pense Hobbes, mais aussi des gens comme Spinoza, comme Grotius. J'en viens rapidement pour que les termes soient clairs et le mouvement de pensée de Hobbes, à partir de la différence entre ces termes, soit clair. Il prend soin donc de distinguer le droit naturel, jus naturalis, jus, J-U-S, naturalis, en latin, jus, ça donnait juris, c'est le droit, de la lex, de la loi naturelle, qui est généralement et nécessairement au pluriel, les lois naturelles. Donc, les lois naturelles, ça n'a plus de rapport avec l'état de nature, au sens où c'est ça qui va déterminer le cadre de l'organisation de la communauté, de la cité, de la société. Donc, les lois naturelles résultent de décisions humaines, supposent le mouvement d'institution de la société. Donc, il y a une dimension nécessaire de volonté. C'est un mouvement volontaire. Ça résulte d'une volonté. Et d'autre part, c'est appelé par l'exercice de la raison humaine. Dans la culture de l'individu, un des attributs, une des qualités majeures de l'individu, c'est que c'est un être doué de raison. Donc, les lois sont des constructions volontaires et rationnelles qui fournissent le cadre de l'être ensemble, qui structure le lien entre les individus. Donc, c'est pour ça que tout ça a prêté à beaucoup de contresens dans les commentaires. Les lois naturelles, c'est un artifice, c'est une construction artificielle, donc ça n'a rien de naturel. Est-ce que c'est la racine du capitalisme? Ce qui est clair, c'est que le capitalisme suppose la culture de l'individu pour se développer. Historiquement, c'est vrai en Europe. Et en même temps, c'est faux. Parce qu'en même temps, un certain capitalisme a pu se développer dans des sociétés holistes et s'en accommoder, sauf que la conséquence, ça va être de favoriser la culture de l'individu. Je prends deux contre-exemples, le Japon précisément. Le capitalisme japonais sera né dans une société encore largement traditionnelle holiste. Et il a su en tirer une force, par exemple, la cohérence qui a donné une puissance énorme de l'entreprise japonaise. Qui est qu'ils ne font pas grève, par exemple, que c'est inconcevable, qu'il n'y avait pas de revendication de vacances, de congés. Il n'y avait pas de problème de grève pour réclamer des congés. Parce que l'entreprise est considérée comme une grande famille, comme le tout auquel on appartient. Et sa propre famille aussi appartient à l'entreprise. Donc ça, c'est des holismes dont le capitalisme japonais a su tirer profit. Sauf que l'effet en retour de cela, c'est la diffusion, le développement de la culture de l'individualisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si historiquement le capitalisme a pu naître dans des contextes différents, y compris des contextes holistes, il n'en reste pas moins vrai, et Louis Dumont le montre bien, que la pensée économique, l'économie politique, est une pensée de l'individualisme. Et que ça a été pensé au XVIIe encore peu, c'est surtout au XVIIIe. Et après le 19e, à travers ces philosophes inventeurs de l'économie politique, mais qui sont des philosophes comme Adam Smith, ou même avant Jeremy Bentham, B-E-N-T-H-A-M, l'inventeur de ce qu'on appelle l'utilitarisme. La pensée économique est une pensée qui considère qu'on ne peut comprendre les hommes dans leur comportement, leur façon d'être et autres, qu'à partir du moment où on considère qu'ils sont tous mus par une rationalité, par une loi humaine, qui est la loi d'optimisation de son profit et de minoration de ses charges. C'est-à-dire qu'en toute situation, l'individu obéit à une rationalité qu'il cherche à optimiser ses gains, pas seulement financiers. Bentham parle aussi de satisfaction ou utilité. Ses gains de satisfaction ou d'utilité. Donc ça peut être pas seulement financier, symbolique, affectif, tout ce qu'on veut. Et cherche en même temps, parallèlement, à minorer les inconvénients, les désutilités, les non-satisfactions, c'est-à-dire les charges. Or, ce raisonnement du calcul, que l'homme obéit au calcul, optimisation, gain, minoration, charge, c'est le fondement même de la pensée économique, donc c'est le fondement même du capitalisme, et ça, c'est le fondement même de la pensée de l'individu, de la culture de l'individualisme. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a effectivement une consubstantialité entre la pensée économique et la culture de l'individu. Ce qui ne veut pas dire que le capitalisme ne soit pas né dans un contexte encore holiste. L'autre exemple que je voulais citer, qui est dans l'histoire en Europe, c'est qu'on peut dire que la première vague d'industrialisation de l'Europe, au sens vrai du terme, industrialisation, ce n'est pas du tout le XIXe siècle, c'est le Moyen-Âge cistercien, donc le Moyen-Âge du XIIe au XIVe siècle, parce que les cisterciens sont les inventeurs de l'usine. Le bâtiment de la fabrique n'a généralement pas été conservé. Il n'y a qu'une abbaye cistercienne où le bâtiment de la fabrique a été conservé pour des raisons un peu de circonstances miraculeuses. Et si vous allez dans ce coin-là, elle vaut d'être visitée parce qu'elle est unique en France et même en Europe. C'est l'abbaye de Fontenay qui est en Bourgogne, pas loin de Montbard, au nord-est de Dijon. Et c'est une abbaye où est conservé face à face deux bâtiments qui ont autant d'importance, autant de monumentalité l'un que l'autre. Vous avez d'un côté l'église abbatiale, donc romane, cistercienne type, et en face, vous avez le bâtiment de l'usine, de la fabrique, près d'un cours d'eau. C'est alimenté par l'eau, donc l'énergie motrice, c'est la roue à aube, avec un système de poulies, etc. Donc ils inventent véritablement les machines-outils par ce système hydraulique. Et ce bâtiment de l'usine, de la fabrique, qui a été conservé à Fontenay, est aussi grand, aussi monumental que celui de l'église abbatiale. Ce qui veut dire qu'ils considéraient ces deux activités de leur communauté étaient aussi importantes. Et les cisterciens ont développé la production industrielle, aussi bien en métallurgie qu'en cuir, qu'en textile. Et les historiens considèrent que c'est la première révolution industrielle. Donc, dans un contexte holiste, sauf que, là aussi, on peut considérer que ces communautés cisterciennes, qui sont des communautés qui vivent sur la règle de Benoît réformée, actualisée, de Benoît de Murcie, c'est-à-dire la règle qui fonde les communautés bénédictines, c'est-à-dire le modèle par excellence de la communauté monastique, des moines. Les moines, c'est uniquement les communautés monastiques qui ont été constituées au Moyen-Âge, avant l'urbanisation. Par exemple, les dominicains et les franciscains, ce ne sont pas des moines. Ce ne sont pas des ordres monastiques, ce sont des ordres religieux ouverts dans le monde. On pourrait montrer que ces communautés cisterciennes sont des laboratoires où va s'inventer, paradoxalement, la culture de l'individu. Notamment sur un point précis, c'est que la notion de salut, de gagner son salut individuel, est très présente dans le mouvement des communautés monastiques. Il faut gagner son salut. Son salut individuel. Et ça, c'est un des ressorts essentiels de l'invention de l'individu. En termes totalement laïcisés, le salut individuel, ça va devenir la réussite individuelle. Il faut réussir. C'est l'impératif, l'injonction qui est faite dès la naissance à chaque individu de nos jours. Si tu ne réussis pas ou que tu ne donnes pas les moyens de réussir, c'est que tu n'existes pas. Tu es rien, tu es trois fois rien, tu es un vaurien. C'est la version totalement laïcisée de la notion de salut. Le salut qui était post-mortem, après la mort, mais, et là qui devient ante-mortem, c'est-à-dire tant qu'on vit sur Terre. Effectivement, même si historiquement l'émergence du capitalisme peut se faire dans des contextes encore holistes, il n'en demeure pas moins vrai que la pensée de l'économie politique et la culture de l'individualisme sont complètement liées. à cause de ce présupposé anthropologique que l'individu obéit à la rationalité du calcul qu'un calcul économique. Alors, on retrouve ça sous cet angle-là chez Hobbes. Chez Hobbes, quand j'ai dit que la loi, les lois naturelles font appel à la raison, sont construites par la raison, pour Hobbes, la raison est synonyme de calcul. Ce qui n'est pas faux, on verra un texte où c'est abordé, le calcul, c'est une forme de rationalité qui est peut-être la forme de rationalité essentielle. Parce que le calcul, c'est d'abord les mathématiques. Et que le calcul, c'est à la base de la pensée scientifique. Donc pensez au fait que parallèlement à ces philosophes comme Hobbes, il y a la montée depuis la Renaissance, italienne en particulier, d'une pensée scientifique qui est une philosophie du monde et dont la figure la plus emblématique est Galilée. Et Galilée considère qu'on peut connaître le monde par le calcul. Que le monde obéit à une grammaire, c'est-à-dire que le monde, on peut le traduire en signes, une grammaire mathématique. Le monde, on peut le traduire en lettres, en signes, en chiffres, peu importe, c'est pareil, lettres et chiffres, c'est la même chose. En algèbre, on utilise des lettres.